VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Violence en Libye. Ouverture ce lundi à Palerme, en Sicile, d'une conférence internationale sur l'avenir de la Libye en proie au chaos depuis 2011. Mais ces possibles résultats sont d'ores et déjà menacés par l'incertitude entourant la présence en Sicile du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays. Cette conférence suit celle de Paris en mai dernier, qui avait abouti à un accord sur une date le 10 décembre en vue de tenir des élections nationales en Libye. Mais l'ONU, chargée de trouver une solution en vue de stabiliser la Libye minée par les divisions et les luttes de pouvoir depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, a toutefois annoncé jeudi dernier que le processus électoral a été retardé et devrait finalement démarrer au printemps 2019. La nouvelle conférence est fragilisée donc par le refus du maréchal Khalifa Haftar d'y participer, selon des médias libyens proches de ce militaire dont les forces contrôlent la plus grande partie de l'est du pays. À noter que le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian est attendu à Palerme, tout comme la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Au Tchad, des combats ont eu lieu samedi au Tibesti dans le nord du pays. Selon une source militaire qui a requis l'anonymat, des échanges de tirs entre une colonne de l'armée tchadienne et des membres d'un comité d'autodéfense retranché dans des grottes de montagne dans la zone de Miski ont duré plusieurs heures. Deux véhicules de l'armée ont sauté sur une mine et trois militaires blessés ont été évacués à Fayalorjo, chef-lieu de la région du Borku et base arrière de l'armée tchadienne pour tous les combats dans le nord. L'armée tchadienne mène une offensive dit-elle, nettoyer la zone des orpailleurs illégaux et prévenir des incursions de rebelles tchadiens venus de Libye. Selon Mouli Sougui, porte-parole du comité d'autodéfense concerné et ex-sous-préfet de Yébibou, joint par l'AFP depuis Libreville, il y aurait eu plusieurs victimes dans les rangs de l'armée tchadienne et trois morts et cinq blessés parmi les membres du comité d'autodéfense. Aucune communication officielle n'a été donnée par N'Djamena au sujet de ces affrontements dans le Tibesti. Au Gabon, la présidence a annoncé que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, était, je cite, « en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques ». Fin de citation. Libreville a ainsi reconnu dimanche, de manière implicite, la gravité de son état de santé. Thomas Kamilindi fait le point.
Le président Bongo, 59 ans, a été hospitalisé le 24 octobre dernier à Riyad à la suite d'un malaise et aucune information n'avait été communiquée officiellement depuis deux semaines, alimentant les folles rumeurs. Le conseil des sages du parti présidentiel avait même appelé le gouvernement à communiquer judicieusement pour rassurer l'opinion. Le porte-parole de la présidence, Ike Nguoni, est finalement sorti du silence dans une déclaration se voulant rassurante, mais qui a confirmé, sans le dire directement, que le chef de l'État restait dans un état de santé fragile. Son état de santé s'est sensiblement amélioré, a déclaré le porte-parole, qui n'a pas précisé de quelle maladie était ou avait été victime le président Bongo. D'après M. Nguoni, le chef de l'État continue d'exercer ses fonctions et les institutions fonctionnent parfaitement dans le strict respect de la Constitution. Selon une source étrangère proche du président Bongo, celui-ci a eu un AVC, un accident vasculaire cérébral, cause de son hospitalisation en Arabie Saoudite.
Élections en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayoulou, 62 ans, désigné dimanche candidat unique de l'opposition pour la présidentielle prévue le 23 décembre, est un ancien cadre du secteur pétrolier formé en France et aux États-Unis qui s'est mobilisé contre un troisième mandat du président Joseph Kabila et contre la machine à voter. Le président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, se définit comme une personne dotée d'une expérience qui fait la différence. Son projet de société, qu'il qualifie de social-libéral, est contenu dans un ouvrage dont le titre est « Investir dans le citoyen pour développer la RDC ». La majorité au pouvoir à Kinshasa dit aujourd'hui avoir pris note du choix du député Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre pour succéder au président Joseph Kabila à la tête de la RDC. Monsieur Fayoulou devrait affronter le 23 décembre Emmanuel Ramazani Shadary, candidat de la majorité sous le label d'une nouvelle coalition électorale d'opposition mise en place à Genève en Suisse, dénommée Lamuka. Réveille-toi en Lingala et en Swahili.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À Madagascar, quatre jours après l'élection présidentielle, l'ancien président de la transition, André Rajoel, reste en tête devant son rival, Marc Ravalomanana, selon les résultats partiels publiés dimanche par la CENI, la commission électorale malgache. Des détails avec Abdulaziz Adili Toro.
Avec 7597 bureaux de vote traités sur les 24852 que compte le pays, soit 30,57%, André Rajoel reste en tête avec 40,87% de suffrages, suivi par Marc Ravalomanana, 35,99%. Au vu de la dégringolade du score du candidat Ravalomanana, son équipe va effectuer une visite à la commission électorale ce lundi. Son directeur de campagne a déjà dénoncé une tentative de fraude et de corruption de la CENI. Le président sortant, Ir Radjo Narmampian, quant à lui, remonte lentement avec 7,01%. Il a aussi dénoncé de nombreuses irrégularités de vote. Ces accusations ont été démenties par la CENI. Le code électoral malgache impose aux candidats un second tour si aucun d'entre eux n'obtient plus de 50% des suffrages au premier tour. La grande île est régulièrement déstabilisée par des crises politiques et post-électorales depuis son indépendance de la France en 1960.
Au Togo, l'opposition togolaise ne participera pas aux élections législatives annoncées par le gouvernement pour le 20 décembre. Son leader, Jean-Pierre Fabre, estime que la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, veut se servir de la tenue de ce scrutin pour résoudre la crise politique qui secoue le pays. Or, toutes les conditions ne sont pas réunies pour une élection crédible et transparente, a souligné Jean-Pierre Fabre, qui réagit ici au micro de mon collègue Irénée Herman Nongbo à l'annonce du gouvernement togolais.
Ces chefs d'État qui ont suggéré cette date, ils organisent des élections chez eux. Ils savent très bien que si on veut organiser des élections libres, transparentes, équitables, démocratiques, crédibles, on exécute d'abord les tâches nécessaires. On ne participe pas à des élections parce qu'il y a une date qui est fixée. Ça n'a aucun sens. Il faut que tout soit clair, parce que nous ne sommes pas dans le cadre d'élections ordinaires. Il s'agit d'une élection dont la CEDEAO veut user pour régler la crise togolaise. Je pense que si nous disons qu'il y a des conditions à régler pour que nous puissions participer à ces élections, il faut qu'au moins pour une fois, on nous écoute.
Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition au Togo. Et pour terminer, actualité américaine, observation officielle ce jeudi aux États-Unis du Veterans Day, la journée des anciens combattants qui tombe le 11 novembre chaque année et a donc été commémorée dès hier, dimanche, à travers le pays. De Paris, où il est en visite, le président Donald Trump a salué dans un tweet les héros de la nation américaine qui se sont battus pour leur pays. Monsieur Trump a par ailleurs participé hier en France en compagnie de plus de 70 chefs d'État et de gouvernement, dont son homologue russe Vladimir Poutine, à la commémoration du centenaire de l'armistice le 11 novembre 1918 qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. L'occasion pour le président français Emmanuel Macron de dénoncer le nationalisme. Le point avec Jacques Aristide.
Plusieurs chefs d'État ont profité de cette journée symbolique pour mettre en garde contre les risques de guerre, ravivés selon eux par la remise en cause croissante du modèle multilatéral, socle des relations internationales depuis l'après-guerre. Emmanuel Macron a mis en avant le patriotisme et dénoncé le nationalisme évoqué récemment par le président Donald Trump. Un forum sur la paix a également été organisé pour marquer ces commémorations en France. Lors d'un déjeuner au palais de l'Élysée, le président Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu un échange informel assez long sur les dossiers diplomatiques mondiaux. Le président Trump s'est rendu au cimetière américain de Suresnes pour rendre hommage aux Américains tombés au champ de bataille. Auparavant, environ 1500 personnes s'étaient réunies dans le calme à Paris pour dénoncer sa présence.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.